le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marcilli.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Et bonjour à tous nos auditeurs. Comme annoncé, nous finissons cette saison par des épisodes thématiques plus spéciaux, permettant de prendre plus de recul sur l'actualité. Une actualité qui, en France, est bien navrante et révoltante et qui mériterait beaucoup de commentaires. Mais nous avions prévu aujourd'hui de discuter à propos d'une figure historique qui incarne quelque chose de très nécessaire, quelle que soit l'actualité, c'est-à-dire le courage en politique. Cette figure, c'est Winston Churchill.
Comme chaque semaine, nous parlerons donc de géopolitique, de politique, de culture et de bien d'autres choses. Mais nous le ferons, comme tu l'as dit, Romain, à travers une figure, Winston Churchill, qui, je crois, depuis que nous sommes très jeunes, a été, de par sa vie romanesque, son destin, une source d'inspiration, d'admiration, mais je dirais même plus. Il a été, notamment dans des périodes parfois un peu plus difficiles, lorsque l'on a fait face à certaines épreuves, un bon compagnon de route, tant sa capacité à se relever des épreuves les plus dures, à continuer d'avancer alors qu'à plusieurs moments de sa vie, tout le monde le jugeait fini, a pu s'avérer précieuse. Et peut-être qu'un certain nombre d'auditeurs s'étonneront que nous ne revenions pas sur les émeutes, les terribles images de violence qui secouent notre pays, mais je crois qu'en s'intéressant au passé, à des figures qui sont porteuses de qualité, d'une vision, d'un courage, qui manque terriblement dans la période sombre que nous traversons, nous sommes aussi capables de dire entre les lignes des choses importantes et de prendre un recul sur les événements et d'amener au final plus de valeur à nos auditeurs. En tout cas, c'est le pari que toi et moi nous faisons dans le Corse et l'Auvergnat. Au programme de cet épisode, donc, nous parlerons de celui qui était surnommé le Vieux Lion, en revenant sur son parcours, y compris des périodes moins connues qui ont jalonné celui-ci, et ce, d'un point de vue très personnel, en tirant des enseignements, je dirais presque un chemin à suivre, près de 60 ans après qu'il nous ait quittés.
Oui, et puis nous évoquerons également l'actualité de la pensée et du style de Churchill, en quoi ils peuvent toujours nous inspirer.
Et nous terminerons par nos coups de cœur, qui nous plongeront dans l'œuvre d'un compositeur que tu aimes beaucoup, Romain, le maestro Ennio Morricone. Et alors que le Tour de France vient de débuter, nous reviendrons sur deux regards très différents, mais passionnants sur le cyclisme. Le premier à travers la série événement de Netflix, Tour de France au cœur du peloton. Et le second à travers un texte un peu oublié, mais pourtant superbe, du grand écrivain Dino Buzzati, intitulé « Sur le Giro 1949 ».
Jérémy, comme tu l'as déjà un peu dit, au-delà de nos différences et de nos goûts, s'il a bien une personnalité qui nous rassemble dans une franche admiration, c'est bien Winston Churchill. Nous souhaitions en parler spécialement aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas d'actualité particulière autour de lui, parce qu'il incarne une vertu bien nécessaire aux gouvernants et qu'ils n'ont pas toujours, celle du courage en politique. Il représente un modèle par de nombreux aspects de son parcours et de sa vision du monde, et plus généralement, il peut nous éclairer sur certains points d'actualité. Mais quand on parle du parcours de Churchill, si son leadership durant la Deuxième Guerre mondiale fut particulièrement admirable et décisif, il faut envisager cette vie bien au-delà. Et la vie de Churchill ne se limite pas à la Deuxième Guerre mondiale.
Non, elle ne se limite pas du tout à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en 1940, quand il arrive au pouvoir, enfin à cette fonction de Premier ministre dont il a rêvé toute sa vie, c'est un homme qui a 65 ans. Il a déjà été très proche du pouvoir à nombreuses reprises, il a été au cœur de l'action, il a mené une vie politique de plusieurs décennies, mais c'est aussi quelqu'un qui a connu des traversées du désert, on va revenir sur celle-ci, qui a connu des épreuves extrêmement dures et qui s'est constamment relevé. Et donc c'est un homme, ce qui est assez fascinant dans le parcours de Churchill, et d'ailleurs il le disait, j'ai l'impression, en 1940, lorsqu'il devient Premier ministre, il disait « j'ai l'impression que toute ma vie m'a finalement construit pour arriver à ce moment et être capable d'incarner quelque part la résistance au nazisme à ce moment. » Parce que c'est effectivement une vie, alors on va pas revenir en détail sur sa chronologie, mais dès son enfance en fait, qui est assez compliquée, faite d'épreuves, parce que c'est clairement un enfant qui est en manque d'affection. Très jeune, il a cette mère d'origine américaine qui est très mondaine, qui a de nombreux amants assez distantes. Il a ce père, Lord Randolph Churchill, qui est un brillant politicien, qui va être chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances, mais qui va sur un coup de tête faire un pari politique, il va démissionner du gouvernement parce que son budget est contesté, et en fait, alors qu'il pensait que ce serait peut-être la voie pour devenir Premier ministre, sera écarté définitivement du pouvoir, va tomber dans une forme de dépression, et puis va mourir très jeune, à 46 ans, de la syphilis. Et en fait, Churchill aura une relation très compliquée avec son père, il le perdra très jeune, en même temps c'est une figure qu'il admire, mais son père ne reconnaîtra jamais vraiment les talents de son fils. Randolph Churchill considérait que son fils était un peu un incapable, qu'il était un bon à rien. Il faut dire que que jeune enfant, les résultats scolaires de Churchill étaient plus que médiocres. Il posait bien des problèmes à ses enseignants. Il était vu comme un garçon extrêmement difficile. Et donc, il y a eu d'ailleurs toute une série de biographies sur Churchill qui sont quasiment freudiennes, qui expliquent qu'en fait, toute la vie de Churchill, tout son parcours serait une manière d'essayer de prouver à son père disparu, que finalement il vaut quelque chose. Et d'ailleurs, de manière très touchante, à la fin de sa vie, il imagine une scène, Churchill, où son père reviendrait le voir un peu en songe. Il demande à son fils, alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette période-là? Et Churchill dit, il y a eu deux guerres mondiales, avant il y a eu deux guerres mondiales, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes juste ton temps à peindre, tu as été incapable de te faire un nom durant ces deux guerres. Et en fait, Churchill aimerait lui dire que si, qu'il a justement marqué l'histoire. C'est ce personnage qui est incroyablement attachant parce que fait de fêlures, de blessures et en même temps qu'ils l'ont nourri et on en fait le personnage que l'on connaît.
Oui, qu'ils l'ont beaucoup nourri, mais ce qui est très attachant aussi, puisque tu emploies ce mot, c'est que Churchill a beaucoup eu toujours de l'ambition. Il a toujours cru en son destin, mais sans être un sociopathe, ce que sont beaucoup de politiques quand même. Et on va parler de ses influences, de ses lectures, de ses voyages qui l'ont construit en tant qu'homme et politique, mais il a été quand même très influencé, notamment par la lecture des stoïciens. Il a aussi lu Pascal, donc on ne sait pas dans quelle mesure c'est une croyance dans le destin ou une croyance dans une sorte de prédestination, de grâce, pourrait-on dire, si on voulait parler en termes pascaliens. Mais tu l'as mentionné, il a toujours pensé qu'il serait un sauveur, un héros de sa patrie. Et ce qui est formidable avec Churchill, c'est qu'il a beaucoup écrit, et on va aussi en parler. Et dans les dernières lignes de son ouvrage « L'orage approche », qui est le premier tome de ses mémoires de guerre, lorsqu'il raconte la soirée du 10 mai 1940, lorsqu'il devient Premier ministre, il écrit dans certaines lignes où il a une compréhension, une analyse du destin qui ressemble un peu à celle de Napoléon. Napoléon s'est toujours vu comme un instrument du destin, fondamentalement. Et il a même écrit que le jour où le destin n'aura plus besoin de lui, je transforme un peu ces mots, Napoléon disait que le jour où le destin n'aurait plus besoin de lui, il le brisera comme du verre. Churchill, finalement, écrit un peu la même chose. « J'avais l'impression d'être guidé par la main du destin, comme si toute mon existence préalable n'avait été qu'une préparation en vue de cette heure et de cette épreuve. On ne pouvait me reprocher ni d'avoir fomenté la guerre, ni d'avoir négligé de la préparer. » Je pensais connaître pas mal de choses sur la question et j'étais sûr que nous n'allions pas défaillir. Donc d'ailleurs, le héros, le leader incroyable de la Deuxième Guerre mondiale, celui qui va finalement être le sauveur, non seulement de l'Angleterre, mais également de l'Europe libre, eh bien, il y a cette croyance dans ce dessin. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant à observer, qui est peut-être parallèle à l'analyse un peu freudienne que tu mentionnais, mais cette culture très forte, cette croyance dans le destin en général et dans son destin en particulier, cela a été un atout pour toute l'Europe.
Oui, croyance dans le destin qui est liée aussi à ses origines familiales, parce que c'est quelqu'un qui vient d'une très grande famille. Il vient des Marlborough par son père. Il ne faut pas oublier que le duc de Marlborough, en 1704, avait battu Louis XIV. On avait d'ailleurs hérité le palais de Blenheim, ce palais absolument magnifique qui est à une vingtaine de minutes d'Oxford, où est né d'ailleurs le petit Churchill. Même si ce n'est pas un héritier de la fortune des Marlborough, il s'inscrit un peu dans cette lignée. Alors, le rapport de Churchill à l'écriture est, je trouve, absolument fascinant. Et peut-être revenons dessus un instant. Tu connais cette citation. Il disait « L'histoire me sera indulgente car j'ai l'intention de l'écrire ». Et donc, effectivement, chez Churchill, l'écriture, c'est aussi une manière de se mettre en scène, de donner sa vision de l'histoire. C'est une manière pour le jeune homme aussi de se faire un nom. Parce que ce qui est intéressant chez Churchill, c'est que donc il passe par le pensionnat Darrow, qui est un peu l'équivalent d'Eton. Ensuite, il fait Sandhurst, l'académie militaire, où il se révèle enfin. C'est l'équivalent du Saint-Cyr pour les Britanniques. Et en fait, à ce moment-là, on est dans l'Empire britannique, et donc il se dit que s'il veut avoir une gloire très jeune, il doit aller combattre. Et donc là, ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est un amour du risque chez Churchill, un amour du danger. Et donc, il va partir, il va notamment sur différents théâtres d'opérations, il va aller combattre à Cuba, il va aller aujourd'hui dans ce qui est le Pakistan, il va aller combattre contre les Pashtuns, il va aller ensuite en Égypte, au Soudan, combattre contre les derviches, il va notamment participer à la fameuse bataille de Khartoum en 1898, et puis il va ensuite s'engager comme journaliste en Afrique du Sud au moment de la guerre des Boers, où il sera prisonnier, il va se libérer, etc. De toutes ces aventures qui vont durer entre 5 et 6 ans, il va écrire 3 livres. Et donc déjà, il y a cette idée très très jeune, hein, il a à peine 20 ans, de se mettre en scène. Et ces trois livres vont le faire connaître, vont en faire un véritable héros de l'Empire britannique, et c'est ce qui sera à la base de sa carrière politique. Ensuite, l'écriture chez Churchill, donc c'est un outil au service de sa carrière politique, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un outil financier. Parce que Churchill, il n'hérite pas d'une grande fortune. Et donc, très vite, et toute sa vie d'ailleurs, il aura des problèmes d'argent. Donc, l'écriture, sa gloire étant de plus en plus grande, il va se faire payer de plus en plus cher pour ses écrits. Et donc, ça va être aussi très alimentaire pour lui, l'écriture. Et puis, tu parlais de ses mémoires à la fin. Évidemment, ça va être aussi l'héritage qu'il laissera dans l'histoire. Mais je trouve qu'il a un rapport à l'écriture qui est absolument passionnant parce qu'elle structure sa vision politique, mais elle nourrit aussi sa carrière politique. Et puis, elle le nourrit au sens le plus prosaïque du terme.
Oui, mais quand tu dis qu'elle nourrit sa vision politique, cela va avoir de l'influence très claire pour la suite, notamment lorsqu'il va être le premier à être lucide face au totalitarisme que constitue le nazisme. Et Churchill a écrit, il avait beaucoup de choses à raconter parce qu'il a voyagé. Tu viens de mentionner tous ces différents voyages comme soldat, comme journaliste, comme observateur. Il avait lui-même une grande passion pour l'histoire, donc il analysait tout de suite à travers ses livres, qui c'était aussi un moyen de poser des idées très fortes. Et puis, lorsqu'il est aux Indes, puis au Soudan, il va être confronté, et c'est il y a peu qu'il était à l'époque, en Europe, peu d'Européens qu'il était, au fondamentalisme islamique. Et là, notamment lorsqu'il était en Inde, puisque ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, le Pakistan, lorsqu'il combattait à la frontière entre l'Inde et ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, il rencontre des combattants très motivés, très enragés par leur religion. Et là, il note, il observe l'implacabilité totale de ces combattants, le mépris, bien sûr, du christianisme, c'est logique, une opposition fondamentale aux valeurs libérales de l'Occident, un culte de la violence, même une exigence d'allégeance. Et il raconte tout ça dans son premier livre, Malakand, qui est l'histoire, en fait, de cette guerre à la frontière entre l'Inde et aujourd'hui ce qu'est l'Afghanistan. Et ses propos très durs sur l'islam comme religion politique sembleraient probablement politiquement très incorrects aujourd'hui, mais ça crée un premier contact avec le fanatisme et le totalitarisme. Et donc, lorsqu'il va retrouver, sous des formes extrêmement différentes, mais il y a quand même des points communs, tous ces traits du totalitarisme en Europe, dans les années 30 avec l'hitlérisme, il va les reconnaître. Là où beaucoup d'hommes politiques de sa génération n'avaient pas ce recul. Et puis, ça va aussi forger son caractère. Dans son autre livre, The River War, que tu évoquais, dans cette trilogie de premiers livres où il raconte ce qu'il a vu lors de ces guerres, et bien lorsqu'il est au Soudan, il est très impressionné par le courage de l'ennemi, Derviche en l'occurrence. Il respecte beaucoup les ennemis, c'est la guerre respectueuse. Et là, il écrit, je trouve, quelques lignes que je vais citer, parce qu'il écrit ça, donc on est à la fin du 19e siècle. « J'espère que si notre pays devait connaître des jours funestes et que la dernière armée qu'un empire en voie de dislocation pouvait faire s'interposer entre Londres et l'envahisseur s'effondrait dans la débandade et la déroute, il y aurait, même en ces temps modernes, des gens qui ne s'accommoderaient pas d'un ordre nouveau en acceptant docilement la débâcle. » Donc quand il écrit ça, il est extrêmement jeune, mais se cache derrière ses écrits de jeunesse déjà les mêmes mots, la même vigueur, la même volonté de résistance qu'on va retrouver chez le Churchill d'une soixantaine d'années qui sera Premier ministre. Et donc, on voit comment un homme s'est construit lorsqu'il disait, je citais ces lignes tout à l'heure, où il disait « Toute ma vie était préparation pour ces événements », on a l'impression, y compris en lisant ses œuvres de jeunesse, que cette préparation a bien été effective et réelle.
Oui, et je crois qu'il y a une préparation, évidemment, en termes de structure intellectuelle. Quand on parlait de Kissinger, de colonne vertébrale intellectuelle. Cette colonne vertébrale, effectivement, chez Churchill, elle va se construire sur plusieurs décennies. C'est aussi une construction oratoire et rhétorique, parce qu'à travers l'écriture, c'est aussi ce qui va permettre de faire émerger l'orateur qui va être capable de transmettre un courage, un esprit de résistance en 1940 à tout un peuple. Et d'ailleurs, qualité oratoire qui n'hésitait pas à s'inspirer d'autres figures politiques ou littéraires, par exemple. de manière intéressante dans son grand discours à la Chambre des communes en mai 1940, quand il dit au peuple britannique « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Ça s'inspire directement d'une citation de Garibaldi 8 décennies auparavant. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Churchill ne se considérait pas comme un grand orateur, parce qu'en fait, il préparait énormément ses discours. Il les préparait, il les écrivait en avance. Donc, juste sur ce point, ce que je trouve aussi passionnant, c'est que la France et le Royaume-Uni de 1940 sont finalement assez proches. Il ne faut pas imaginer que, par définition, la nation britannique était enveloppée de courage et prête à résister. Il y avait beaucoup de Britanniques qui avaient peur de l'ennemi hitlérien. Mais là, il y a eu un homme qui a été capable de tirer le meilleur d'eux-mêmes, qui a été capable, plutôt que de les amener vers la peur et la lâcheté, de les amener vers le courage, vers la grandeur. Et ça, Churchill, par ses mots, par tout ce qu'il incarnait, par son parcours, a su incarner et tirer cela. Là où, à l'inverse, en France, il y avait une élite politique qui, en fait, a amené les Français vers le bas, a tiré ce qu'il y avait de pire en eux. Et c'est Pétain, c'est Laval, c'est tous ces hommes. Et je crois que ça nous rappelle quand même que certains hommes peuvent façonner l'histoire, qu'il y a des grands leaders, qu'il y a une forme d'aristocratie, quelque part, chez les hommes, en termes de valeur, de ce qu'ils peuvent tirer des autres. Et c'est finalement ce qu'incarnait Churchill. Et je crois qu'il nous rappelle quand même ce qu'est le grand homme. Juste dernier point. Toutes les qualités qu'on vient d'évoquer de Churchill, on en fait un leader incroyable en temps de guerre, mais un piètre leader en temps de paix. Parce qu'on va revenir dessus, mais beaucoup des fonctions qu'il a occupées dans les temps de paix, il les a fait de manière assez désastreuse. Ça a été probablement le pire chancelier de l'échiquier de l'histoire britannique dans les années 20. D'ailleurs, lui-même le reconnaissait. Sa décision d'indexer la livre sterling sur l'étalon or est probablement une des pires décisions de l'histoire économique britannique. Et lorsqu'il est revenu comme Premier ministre entre 1951 et 1955, à la fin de sa vie, ça a été un désastre absolu pour le Royaume-Uni, dont le Royaume-Uni a payé le prix économiquement, socialement, pendant très longtemps.
Ce que tu disais sur le grand homme et l'histoire, ça nous rappelle aussi cette belle discussion qu'on avait eue il y a un an, l'été dernier, avec Patrice Gagnifet. Cela nous montre tout de même que, même si les esprits hegéliens parlent du sens de l'histoire, l'homme, enfin l'individualité, compte quand même énormément. Le Royaume-Uni sans Churchill, on ne va pas faire de science-fiction, d'Uchronie, mais on ne sait pas ce que ça aurait pu devenir sans un tel homme, comme le grand homme qu'admirait Churchill, Napoléon Bonaparte. Sans lui, l'histoire de France aurait bien sûr été très différente. Donc oui, il y a peut-être un sens de l'histoire, certaines tectoniques des plaques qui sont à l'œuvre, mais elles sont toujours déclenchées par des hommes sans lesquels, bien sûr, tout aurait été extrêmement, extrêmement différent. Oui, tu fais bien de rappeler que son parcours a été constitué de haut et de bas. Il arrive, bien sûr, au sommet du pouvoir, Premier ministre à 60 ans. Sa carrière avant cela a été très longue. Il a occupé quasiment toutes les fonctions, y compris très jeune, ministre de l'Intérieur, Lord de l'Amirauté, l'équivalent, bien sûr, du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, effectivement, un parcours très riche. Et puis, ce qui a fait aussi sa renommée et ce qui fait aussi sa légende, une longue traversée du désert. Car comme tu l'as rappelé, son passage à l'échiquier n'a pas été très brillant. Il a quand même aussi un sens politique dans les années 10-20 qui est un peu filou, on va dire, puisqu'il passe d'un parti à l'autre et il se fait beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et d'ailleurs, il y avait le fait qu'il se crée des inimitiés était assez légendaire. Il y a un trait d'humour de Churchill qui est souvent assez connu à propos justement de sa capacité à se faire des ennemis. C'est une discussion qu'il a eue avec Shaw. Shaw, donc l'homme de théâtre, qui lui écrit « Je vous ai réservé 2 places pour la première de Pygmalion, sa pièce. Venez avec un ami si vous en avez encore. » Et là, Churchill lui répond, et c'est ce trait d'esprit de Churchill qu'on retient, « La première est impossible pour moi, viendrai le lendemain si la pièce se joue encore. » Donc oui, c'est un trait toujours extrêmement marquant de Churchill, son humour, sa capacité à casser par sa rhétorique ses adversaires. Mais donc, il y a eu quand même cette traversée du désert. Et puis, lorsqu'on parle de ce qu'il écrit, il continue à écrire, bien sûr, pendant les années 20, pendant les années 30, même lorsqu'il n'est plus au sommet. Il est considéré comme un has-been. Je le rappelais dans un épisode précédent, lorsque j'évoquais un livre qui comparait les parcours de Churchill et d'Hitler, que Churchill, dans les années 30, n'est plus considéré comme un interlocuteur crédible. Il prêche dans le désert, lorsqu'il est le seul dans la classe politique britannique a alerté presque matin, midi et soir sur les dangers de l'hitlérisme. De passage en Allemagne, il est un peu curieux pour rencontrer Hitler, qui n'est pas encore arrivé au pouvoir, mais qui va y arriver. Hitler ne veut même pas le rencontrer, tellement il dit « je ne vais pas perdre mon temps à rencontrer un has-been comme Churchill que personne n'écoute ». Et, ironie du sort, Churchill écrit d'ailleurs un livre, pas une biographie, n'exagérons pas, mais un livre sur Moïse. Donc en termes de traversée du désert, tout cela a été très puissant, et ça a aussi contribué à renforcer sa légende de celui qui est en haut, qui redescend et qui revient. Le retour de Churchill en 40, c'était aussi ça.
Oui, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'en 1940, même si finalement les faits lui donnent raison, il s'est créé tellement d'ennemis, il est vu comme tellement pénible à gérer au quotidien, que les membres du cabinet britannique, quand Chamberlain part, ne le veulent pas. Ils préféreraient une alternative, un Halifax, etc. Mais bon, finalement, c'est Churchill qui va être choisi. Plusieurs points, à mon avis, aussi importants. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois que je lis sur Churchill, et c'est un personnage sur lequel moi j'aime à revenir régulièrement, il y a une part de moi qui est un petit peu déprimée, parce qu'il a, à 25 ans à peine, il a écrit 3 livres, il a vécu de multiples aventures, à 26 ans, il est élu à la Chambre des communes, c'est quelqu'un qui, tu le disais, il est ministre de l'Intérieur à 36 ans, enfin, il a un parcours, il fait tellement de choses jeunes, il écrit, il a une vie politique riche, que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Par contraste, et en même temps, il a un côté, c'est pas quelqu'un qui, contrairement à un De Gaulle, qui est une figure... C'est très dur de créer un lien personnel avec De Gaulle, parce que De Gaulle, il y a une figure quasiment mythique, quasiment inatteignable. Il y a quelque chose de très humain chez Churchill. Et Churchill, c'est quelqu'un, par exemple, qui était constamment en proie à la dépression, ce qu'il appelait son black dog. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne vivait que par une forme d'hyperactivité, mais dès qu'on le sortait du pouvoir, on le sortait des responsabilités, il passait par des épisodes dépressifs extrêmement dur, où parfois, pendant 6 mois, il était quasiment incapable de sortir de chez lui et il vivait extrêmement mal. Plusieurs épisodes à cet égard, parce que tu as évoqué la traversée du désert des années 30, mais il en a eu plusieurs avant. Il fait d'abord une carrière politique où il monte extrêmement vite, tu l'as dit. Mais c'est notamment, il est premier lord de l'amirauté quand tu as l'expédition absolument désastreuse en 1915 dans les Dardanelles, à Gallipoli, où tu as plus de 100 000 hommes français, britanniques qui vont mourir, et également des régiments australiens et néo-zélandais, 150 000 hommes blessés, et à ce moment-là, l'opinion publique se retourne contre Churchill et considère qu'il en est responsable. Et là, il tombe dans un épisode dépressif extrêmement important, et sa manière pour lui d'en sortir, et c'est ça quand même qui est assez extraordinaire chez ce personnage, ça va être d'aller combattre lui-même sur le front et de prendre des risques insensés durant la Première Guerre mondiale. Et donc là, il prend la tête d'un régiment de hussards écossais et il va combattre sur le front, dans les tranchées. Il y a quelques lettres assez saisissantes qu'il écrit à sa femme Clémentine, où il dit finalement c'est dans cette boue, au milieu des cadavres, etc., que je retrouve quelque part une forme de bonheur et de joie de vivre que j'avais perdue depuis de nombreux mois. Ensuite, tu l'as dit, il va avoir à nouveau des traversées du désert dans les années 20, dans les années 30, extrêmement, extrêmement longues. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, tu t'aperçois qu'il va s'appuyer sur plusieurs piliers, alors qui nous font parfois sourire, mais qui ont été fondamentaux pour lui. L'alcool, évidemment, il buvait beaucoup, c'était pour lui un pilier formidable. Et d'ailleurs, alors qu'on l'interrogeait sur son énergie, sur son dynamisme, il disait « Écoutez, ma recette est simple, de l'alcool, du tabac et surtout pas de sport. » Et donc, grand amateur de whisky, de champagne et de tabac, mais c'est aussi quelqu'un qui peint. La peinture va être pour lui une manière de s'évader dans ces périodes dépressives extrêmement importantes. Et donc, la peinture va jouer un rôle essentiel. Il voyage énormément. Et juste un dernier point. Tu mentionnais, tu faisais un parallèle avec Hitler. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que les deux avaient finalement un peu l'ambition d'être des stratèges, des stratèges amateurs. Churchill, contrairement à De Gaulle, alors en l'occurrence, De Gaulle était un officier supérieur, c'était un vrai stratège militaire, Churchill ne l'était pas. Mais la vraie différence, c'est que Churchill était capable, in fine, d'écouter les vrais officiers et était capable de se mettre derrière les avis de personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais de reconnaître qu'il avait eu tort. Là où Hitler, et une des raisons des nombreux échecs d'Hitler, ça a été de parfois s'enfermer dans une vision où il n'écoutait plus ses officiers. Et ça, c'est une vraie différence entre les deux.
Oui, c'est ce qu'explique très bien Andrew Roberts donc dans son formidable essai Hitler et Churchill, la différence absolue en termes de management, pourrait-on dire, entre ces deux hommes. Tu mentionnais la peinture, n'oublions pas qu'il a beaucoup peint aussi dans le sud de la France. Churchill a voyagé, il s'est pas mal installé sur la Côte d'Azur, il avait notamment une villa à Cannes, puis il s'est beaucoup installé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc il a beaucoup peint la Côte d'Azur, le port de Cannes, etc. Donc il avait un attachement à la France très fort, mais il écrivait aussi, faut pas oublier que voilà, il y avait l'alcool, l'écriture, la peinture, mais l'écriture restait. Et quand on évoquait tout à l'heure sa croyance dans son destin, bon, Churchill avait quand même son petit ego, et lorsqu'il écrit dans les années 30 en tant que has-been, lui, dans sa tête, il ne l'est pas, il va revenir. Et donc, il écrit un essai sur Moïse. Il a traversé du désert lorsqu'il conduit son peuple vers la terre promise. Et je te citerai quatre lignes. On voit bien que Churchill parle peut-être plus de Winston que de Moïse. « Tout prophète doit être issu de la civilisation, mais tout prophète doit faire sa traversée du désert. Il doit s'être absolument imprégné de la complexité de la société et de tout ce qu'elle peut offrir. Mais ensuite, il doit se soumettre à des périodes d'isolement et de méditation. C'est comme ça que se fabrique la dynamite psychique. » J'aime beaucoup cette expression de dynamite psychique, parce qu'effectivement, lorsqu'il va revenir au pouvoir en 1940, Churchill va constituer un bâton de dynamique psychique qui va, in fine, faire exploser le totalitarisme hitlérien et protéger l'Europe. Donc, il avait quand même cette force en lui exceptionnelle, où au moment où il est totalement isolé, il continue à y croire. Alors, ça peut créer des dingues, cette confiance en soi, mais ça peut aussi apporter sur le plan politique ce qu'il y a de meilleur. Et puis Churchill, j'en parlais tout à l'heure rapidement, avait quand même, au-delà de ses illustres ancêtres dans sa famille qui constituaient parfois certains modèles, il avait un modèle absolu qui peut paraître très particulier pour un Britannique. Ce modèle, c'est Napoléon. D'ailleurs, lors de ses premières missions, de ses premières responsabilités, il emmenait toujours avec lui dans ses nouveaux bureaux un buste de Napoléon. Alors, il faut voir le rapport au temps. Lorsque on parle des premières responsabilités de Churchill, on est moins d'un siècle après Waterloo. Et Churchill est né dans les années 1870. Il a pu parler avec des personnes qui ont presque indirectement connu l'Empire. Enfin, on n'est qu'à 2 degrés à ce moment-là, en termes de génération. Et donc, il avait cette passion pour Napoléon, qu'il a beaucoup accompagné. Et Churchill, dans ses voyages, puisqu'on parlait de voyage, s'est rendu en Corse. Alors, il n'y a pas beaucoup de sources là-dessus. On sait qu'il est allé, puisque c'est lui-même qui fait mention. On sait qu'il va en Corse en 1944, au moment du débarquement en Provence. Il passe à Ajaccio pour superviser ce débarquement en Provence dont il n'était pas intellectuellement totalement fan. Pour lui, la priorité n'était pas de débarquer en Provence, était d'aller très vite vers l'Est, parce qu'il avait bien compris qu'il y aurait une course avec les forces communistes pour aller le plus vite possible vers l'Est. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc à ce moment-là, il est le 15 août 1944, il est en Corse, de manière presque incognito, parce qu'il n'a pas prévenu De Gaulle. Et donc De Gaulle, avec son caractère, n'est pas ravi de le savoir. Et De Gaulle, d'ailleurs, fait envoyer un télégramme au général Mollard, qui est le gouverneur militaire de la Corse à ce moment-là. Monsieur Churchill n'a pas fait savoir au gouvernement français qu'il se rendait en Corse. En conséquence, je vous prescris, ainsi qu'à toutes les autres autorités militaires et civiles en Corse, d'ignorer totalement sa présence. Veuillez communiquer ceci au préfet. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais on sait à ce moment-là qu'il est allé en Corse dans sa jeunesse, car il écrit à sa femme Clémentine un petit message de Corse. Souviens-toi, quand nous étions lui dit 1910, mais apparemment, ce serait plutôt 1913. Il a fait un tour de la Méditerranée. Et puis, en tant que grand admirateur de Napoléon, il n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter à Ajaccio. Et il aurait visité la maison natale de Bonaparte, qui à l'époque n'était pas encore un musée, puisque c'est devenu un musée que bien plus tard, dans la deuxième partie du XXe siècle. Et selon un témoignage, il est resté totalement silencieux, d'admiration et de respect face à la maison, et dans la maison peut-être de Bonaparte. Donc, ses piliers, c'était aussi sa connaissance de l'histoire. Et puis, il était aussi très intéressé par la période de la fin de l'Empire romain. Il ne cessait de lire là-dessus, parce que il avait aussi une peur qui s'est vérifiée dans les années 30, la faiblesse, la fragilité plutôt, de notre démocratie libérale.
Alors juste une phrase pour rebondir sur ce que tu viens de dire, cette citation de Churchill, « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». Donc effectivement, ce lien à l'histoire. Alors il y a un autre point moi, sur lequel je souhaitais revenir, c'est la question de savoir si aujourd'hui des figures comme Churchill, mais on pourrait aussi parler de Clémenceau, seraient encore possibles dans notre vie politique actuelle. Parce que Churchill, bon, c'était quelqu'un qui, notamment sur les questions d'argent, avait un rapport qui n'était pas toujours extrêmement puritain, pour le dire poliment. C'est quelqu'un qui était un piètre investisseur, qui était un spéculateur compulsif, qui jouait au casino, qui avait perdu des millions en bourse. Et donc, il disait d'ailleurs, « L'argent est la seule chose qui m'inquiète dans la vie », avait-il un jour avoué à son frère Jack. Et pour essayer de répondre à cette inquiétude, il avait recours à de multiples subterfuges. Il avait, de temps en temps, de manière plus ou moins discrète, essayé de se soustraire à l'impôt. Il n'avait pas hésité à faire appel à la générosité de secrets bienfaiteurs. Aujourd'hui, on n'hésiterait pas à parler de conflit d'intérêts. Il avait, lorsqu'il avait été renversé par une voiture aux États-Unis, ce qui avait un accident assez grave, hein, il avait été hospitalisé pendant assez longtemps, il avait monté une sorte de petite fraude à l'assurance pour être bien indemnisé. Et donc aujourd'hui, évidemment, quand on pense à tout cela, on s'imagine que quelqu'un comme un Winston Churchill ne ferait pas long feu, finalement, dans notre scène politique bien puritaine, pleine de bienséance hygiéniste, et que nos directeurs de conscience auraient tôt fait de le calomnier, de l'invectiver, de le clouer au pilori. Et donc la question, je pense, que nous devrions nous poser, c'est évidemment que nous devons avoir des élites politiques qui respectent la loi, qui ne sont pas corrompues, mais finalement, est-ce que ce que l'on cherche chez un responsable politique, c'est uniquement une forme de, comment dire, d'honnêteté selon certaines règles, voilà, d'hyper-transparence, ou est-ce que finalement, en faisant cela, on ne se prive pas de caractères dont on aurait besoin dans des périodes sombres, qui sont capables d'incarner quelque chose, qui sont parfois effectivement des figures qui sont un petit peu plus dures à contrôler, un peu moins malléables, mais qui sont finalement celles qui sont capables de créer un lien avec nos concitoyens, d'avoir une vision. Et finalement, ce que tu disais tout à l'heure, je pense que Churchill, toute sa vie politique en temps de paix, peut être à bien des égards critiquable, mais finalement, ce qu'il laissera à l'histoire, c'est ces 5 années où il a été en osmose totale avec son peuple. C'est-à-dire, en fait, c'est ça, la carrière de Churchill. C'est une carrière à bien des égards qui peut être vue comme plus ou moins médiocre politiquement, jusqu'à ce moment, entre 1940 et 1945, où il va être en osmose totale avec son peuple. Et d'ailleurs, ces 5 années où il est en osmose totale, mais à l'issue de ces 5 années, le peuple britannique est à la fois incroyablement reconnaissant à Churchill d'avoir été cet homme qui lui a donné cet esprit de résistance, mais en même temps se dit, aux législatives de 1945, que Churchill n'est absolument pas l'homme qui va être capable d'amener le Royaume-Uni à relever les défis de la reconstruction et de l'après-guerre. Et donc, il perd contre Clément Attlee, et tu as cette scène extrêmement humiliante pour Churchill, où il se rend à la conférence de Potsdam. Le premier jour de la conférence, il est aux côtés de Harry Truman et de Joseph Staline. La conférence est ajournée parce que Churchill doit voir les résultats à Londres des élections. Staline, qui est habitué évidemment à des élections parfaitement contrôlées, lui prédit 80 sièges d'avance. Le problème, c'est qu'il perd contre les travaillistes, et donc c'est Clément Attlee qui revient représenter les Britanniques à la conférence de Potsdam. Et donc voilà, donc c'est, je crois qu'on devrait quand même parfois se poser la question, de par toutes nos règles d'hypertransparence, etc., quelle est la classe politique que l'on est en train de se forger, de se créer, de se donner.
Bon, ben, tu peux l'imaginer, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a eu un bon mot qu'on répète souvent de Churchill à son épouse, qui, lorsqu'il est battu à ses élections de 1945, lui dit, écoute, c'est peut-être c'est le destin, c'est peut-être la grâce divine qui est déguisée. Et Churchill lui aurait répondu, si c'est une grâce divine, elle est rudement bien déguisée. Donc il était quand même un tout petit peu vexé de cette défaite électorale et de ce manque de gratitude tout de même des électeurs britanniques. Et puis, en plus, battu par une personnalité, Clément Attlee, pour laquelle il avait relativement peu d'estime. Et encore, il y a un bon mot. Mais avec Churchill, c'est un peu comme Talleyrand. On lui prête tellement de bons mots qu'on ne sait pas s'ils sont réels ou apocryphes. Mais ce très bon mot, un taxi vide s'arrête devant Downing Street, Clément Attlee en descend. Voilà, donc ça montrerait s'il a prononcé tout le respect qu'il avait pour ce personnage. Mais effectivement, c'est une personnalité qui, et ça rend sa légende politique encore plus forte, était tout sauf lisse. Et dans les moments de gros temps, il y a besoin de personnalités qui peuvent paraître un peu désaxées par les technocrates ou par les puritains. Et dans les années 30, il était très attaqué par sa consommation d'alcool et la propagande nazie insistait beaucoup là-dessus, en ne cessant d'insister sur le fait que le leader du monde libre était un dépravé alcoolique, là où bien évidemment les nazis se pensaient des modèles de vertu végétariens, etc., etc. Mais on a besoin de ces fêlés, on va dire, disait heureux les fêlés, laissent passer la lumière, mais on a besoin aussi de ces fêlés qui savent contourner parfois les règles. Et la transparence absolue est une machine à broyer les hommes politiques et à totalement décourager les vocations. Or, on voit bien, dans les périodes de gros temps, comme celle que nous connaissons actuellement, même si, bien évidemment, ce n'est pas comparable avec une guerre mondiale et un danger totalitaire, on a besoin d'hommes qui, par leur caractère, par leur personnalité, par leur vision aussi, savent penser en dehors des cases.
Alors, tu as tout à fait raison, et tu évoquais avant Churchill le prophète. Et effectivement, il a été prophète par rapport à l'hitlérisme dans les années 30, mais il a été aussi prophète après la Seconde Guerre mondiale. Quand il quitte le pouvoir, mars 1946, il n'occupe plus aucune fonction. Harry Truman l'invite pour prononcer un discours à Fulton, dans le Missouri, aux États-Unis. Et là, il va prononcer un discours très connu parce que c'est le discours où, finalement, il va dire publiquement ce qui se chuchotait tout bas dans les chancelleries du monde entier. C'est le discours, le fameux discours où il dit qu'un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe et donc que finalement l'expansionnisme soviétique est la nouvelle menace existentielle. Et il le sait d'autant plus que à partir de 1943 jusqu'en 1945, on a tendance à l'oublier, mais ce sont deux années durant la Seconde Guerre mondiale extrêmement difficiles pour Churchill, parce qu'en 1943, Churchill a compris qu'in fine les Alliés remporteront la Seconde Guerre mondiale, mais que la grande menace, ça va être comment contenir Staline et l'expansionnisme soviétique en Europe de l'Est. Et donc il va y avoir, et Yalta notamment est à propos de cela, des discussions extrêmement tendues entre Churchill, Staline et un Roosevelt déclinant, malade, qui est finalement prêt à toutes les concessions à ce moment-là, sur les zones d'influence en Europe de l'Est. Et Churchill va devoir malheureusement céder face à Staline, qui va avancer ses pions dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Le seul pays où Churchill, de manière assez romanesque, parviendra finalement à sauver la mise, c'est la Grèce, parce qu'à ce moment-là, Staline avait même pour ambition de pousser l'avantage soviétique en Grèce, et Churchill se rendra dans un voyage où il prendra des risques insensés en 1945 en Grèce. Il traversera Athènes en proie à la guerre civile, sa voiture sera la cible de pas mal de tirs, mais il demandera à ce moment-là aux troupes britanniques à la colère du Kremlin, d'aider les forces non communistes à repousser les partisans communistes de Grèce. Et donc, il est prophète sur justement cet expansionnisme soviétique. D'ailleurs, lorsqu'il devient Premier ministre à nouveau en 1951, il se désintéresse complètement des sujets de politique intérieure au Royaume-Uni et sa seule obsession, c'est finalement comment construire ce bloc occidental face à la menace soviétique. À cet égard, il est d'ailleurs intéressant de voir que Churchill, alors, était quelqu'un qui avait annoncé dans un discours aussi à l'époque à Strasbourg, en français, Place Kléber, il avait appelé à la création des États-Unis d'Europe et à la création d'un Parlement européen. Il était aussi très visionnaire sur l'idée européenne. Alors, de manière intéressante, il ne voyait pas nécessairement le Royaume-Uni dans cette entité européenne, mais il avait une vision du futur de l'Europe, et donc effectivement un homme prophète. Juste un point sur lequel aussi j'aimerais revenir, qui m'a beaucoup frappé, et peut-être un parallèle avec De Gaulle. Tu sais, quand De Gaulle quitte le pouvoir, il se retire à Colombey-les-Deux-Églises, il fait quelques voyages, notamment en Irlande, et puis quand il meurt, sa femme Yvonne De Gaulle a ce mot terrible où elle dit, vous savez, la fin de la vie de mon mari a été une terrible agonie, il était dans une dépression complète, et quelque part, il fallait que ça se termine. Et bien, de la même manière, en fait, les 10 dernières années de la vie de Churchill vont être une agonie terrible, et c'est un homme qui avait le sentiment à la fin de sa vie qu'il avait tout raté. parce qu'il disait, il n'arrêtait pas de répéter à ses proches, il avait dit, voilà, j'avais deux rêves. C'était une Grande-Bretagne prospère, à la fin de ma vie, dans un monde en paix, ben, j'ai aucun des deux. Au cours de ma vie, j'aurais vu le délitement de l'Empire britannique, l'appauvrissement sur la scène internationale de la Grande-Bretagne, et puis on est dans un monde en proie à la guerre froide. Et donc, il avait l'impression que finalement, sa vie avait été une vie d'échec. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me frappe beaucoup. Chez ces deux grands hommes, qui sont peut-être les deux plus grands hommes du XXe siècle, un sentiment à la fin de leur vie d'échec.
Ben, Churchill aimait répéter une phrase qu'aurait prononcée Napoléon, selon laquelle, pour comprendre un homme, regardez le monde tel qu'il était quand il avait 20 ans. Et effectivement, le Churchill qui a 20 ans, on est à la fin du 19e siècle, Churchill est un homme qui a grandi au 19e siècle, et ben, ce monde-là s'est effondré. L'Empire britannique s'est effondré, l'Europe a connu deux guerres civiles meurtrières qui ont représenté ce qu'il y a de pire pour le genre humain. Donc on peut comprendre qu'il y ait un sentiment d'échec, non pas forcément pour Winston Churchill, mais pour l'humanité, pour la conception qui se fait de l'homme, pour la conception aussi qui se fait de son pays et de l'Empire britannique. Donc ça, je crois que c'est très compréhensible. Tu mentionnais le courage physique, il ne faut pas l'oublier, de Churchill, il n'y a pas que le courage intellectuel. Il a pris très régulièrement des risques énormes en avion, sur terre, sur mer. Donc il n'y a pas vraiment que le courage intellectuel. Le courage intellectuel, c'est ce qu'on a le plus évoqué aujourd'hui. Il a été précurseur dans les années 30, il a été précurseur après-guerre. Il y avait une vision également, ça c'est aujourd'hui, ça lui vaudrait non seulement une fatwa, mais aussi un discrédit total des bien-pensants. Mais il a aussi alerté contre les dangers de l'islamisme, notamment dans ses premiers livres, lorsqu'il a vu tous les dangers de cette pensée, de cette idéologie. Il parlait plus de l'idéologie que de la religion, bien évidemment, mais de cette religion politique. Et ça, je crois que c'est des paroles, des écrits qui sont toujours extrêmement pertinents. Et puis, Churchill, à la fin de sa vie, plus que comme le défenseur de l'Angleterre, s'est présenté aussi, et je crois que c'est un autre élément de sa carrière qui peut beaucoup nous intéresser et nous inspirer, comme un défenseur de la démocratie libérale, des libertés individuelles. Il y a un discours assez célèbre à Harvard, où en septembre 43, il est reçu comme docteur honoris causa de l'université d'Harvard. Et là, donc il a ce discours aux étudiants, et peut-être aussi parce qu'il sait très bien qu'aux États-Unis, il n'y a pas une grande tradition coloniale, il reprend une formule de Napoléon assez célèbre, les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret sont celles que l'on fait sur l'ignorance. Et là, Churchill, avec des mots différents, lui dit, les empires de l'avenir sont les empires de la pensée. Et ça, c'est quand même très fort. Alors lui, il pensait qu'il y avait un vrai empire de la pensée possible pour le monde anglophone. Et il dit à ses étudiants, le droit, la langue, la littérature, ce sont là des facteurs d'importance. On ne parlait pas encore de soft power à l'époque, mais lui, il entrevoit une conception commune de ce qui est bien et de ce qui est inacceptable. L'attention soutenue portée à l'équité, en particulier vis-à-vis des faibles et des pauvres, un puissant sentiment de ce qui constitue une justice impartiale et par-dessus tout, l'amour de la liberté individuelle. C'est tout cela qui, pour lui, devait constituer l'âme de ce qu'on peut appeler l'Occident. Et donc, il y a aussi ce Churchill plus idéologue, parce qu'on a dit que c'était un malin, que c'était quelqu'un qui savait être parfois opportuniste politiquement, que c'était un courageux, que c'était un combattant, mais il y avait quand même aussi une colonne vertébrale avec des vraies convictions autour de la liberté individuelle. C'est ce qui fait que Churchill est un des lions de la liberté et celui qui l'a probablement le mieux défendu au XXe siècle.
Et c'est d'autant plus remarquable que Churchill reconnaissait volontiers que parfois il rouspétait un peu contre la démocratie parce qu'il voyait bien qu'au moment de mener une guerre, il lui fallait constamment négocier avec son cabinet qui rejetait pas mal de ses idées, parfois d'ailleurs à raison parce que c'est Roosevelt qui disait Churchill a 200 idées par jour mais il n'y en a que 4 qui sont bonnes et il ne sait pas lesquelles. Heureusement qu'il était encadré, il fallait l'encadrer Churchill, c'est quand même aussi un point à rappeler, il fallait toujours qu'il soit encadré d'un cabinet et de stratèges militaires, qui effectivement, ce qui le frustrait parfois, mais pour autant, comme tu l'as dit, ça ne l'empêchait pas de demeurer profondément attaché à la démocratie. C'est quelqu'un aussi qui, disons-le, avait quand même une manière très aristocratique de vivre, qui aujourd'hui serait difficilement concevable. Il partageait sa vie, y compris dans les périodes un peu de disette, entre des voyages chez des milliardaires, sur la Côte d'Azur, son manoir de Chartwell. Il s'est rendu une fois dans le métro de Londres, il a fallu aller le récupérer parce qu'il s'était perdu. Donc bon, c'était quand même quelqu'un qui avait une forme d'inadaptation, on va dire, à une forme de vie ordinaire. Pour autant, ça ne l'empêchait pas d'avoir une vraie empathie pour, on va dire, le peuple, même si ce terme est parfois vu aujourd'hui comme politiquement peu correct. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il avait, il était passé du Parti conservateur au Parti libéral au début de sa carrière, il disait, pour lui qui était très attaché à l'Empire britannique, il disait « Quelle gloire à maintenir les frontières de l'Empire si nous sommes incapables de nettoyer nos égouts ?» Parce qu'il avait été marqué dans la ville de York par la pauvreté terrible du peuple britannique. Et donc c'était quand même quelqu'un qui avait aussi une capacité d'empathie immense à l'égard du peuple. Et c'est aussi, je crois, la raison pour laquelle il y a eu cette osmose possible dans les années 1940 avec le peuple britannique, parce que son empathie pour les souffrances du peuple britannique n'était pas feinte. Et il y a d'ailleurs cette anecdote que, après son discours à la Chambre des communes, où il promet finalement beaucoup de souffrances au peuple britannique, eh bien, dans l'intimité, devant ses conseillers, il verse des larmes. Il parle du peuple britannique, il dit « ils me soutiennent », mais le fait est que pendant des années, ils vont devoir souffrir et souffrir de manière extrêmement dure. Donc c'est quand même quelqu'un qui, je crois, avait cette humanité qui en a fait aussi ce leader immense.
Et il n'a jamais cherché, y compris parfois en public, à cacher sa sensibilité.
Tout à fait.
Dans sa biographie parallèle avec celle d'Hitler, Andrew Roberts, met en relief le fait que là où les dignitaires nazis surjouaient leur cynisme et leur imperméabilité à tout sentiment, Churchill, durant toute sa carrière, savait montrer son émotion, et c'est sûrement ça aussi qui a constitué cette osmose sur la démocratie. On se souvient bien sûr de son grand classique, la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. C'était quand même un grand défenseur de la liberté, et c'est, je crois, pour ça qu'on admire particulièrement, au-delà de son existence, de son style, de son humour, de sa manière de vivre, qui bien évidemment ne peuvent le rendre que très sympathique.
Romain, je suis très heureux que nous ayons pu parler, échanger longuement sur cette figure. On aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur Winston Churchill, mais je crois que c'est une figure que toi et moi nous admirons. Je pense que les auditeurs l'auront compris. Je suis heureux que nous ayons pu consacrer un épisode spécial à Winston Churchill.
Non, mais c'est un défi au politiquement correct, permanent. Ça, je crois aussi que c'est par sa provocation et par sa lucidité. Je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, le thème de notre émission n'est pas un thème d'actualité. On ne va pas parler forcément des banlieues qui sont en émeute. Mais quand même, je veux dire, lorsqu'en France, on aime bien rabrouer toutes les personnes qui, de temps en temps, et régulièrement, écrivent sur le délitement de l'État, le délitement de la société, alors en les traitant de réacs, de conservateurs, etc. Je crois que Churchill doit être une boussole pour tous ceux qui veulent être des lanceurs d'alerte, même si c'est une expression que j'aime pas du tout, parce qu'elle fait beaucoup trop activiste et militante, mais Churchill a eu toute sa vie cette volonté de provoquer et d'appuyer là où ça fait mal. Je crois aussi qu'intellectuellement, c'est quelque chose qui est très inspirant.
Tout à fait. Ça rappelle que si on veut faire de grandes choses, si on veut aussi parfois être du côté d'une forme de vérité, il faut accepter de ne pas être aimé. Et je crois que c'était quand même aussi un des courages. On a beaucoup parlé de courage de Churchill. Il a accepté d'être dans la minorité. Il a accepté d'être l'objet de l'opprobre de ses contemporains à de multiples reprises, d'être moqué. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché à la fin de marquer l'histoire. Il est temps de passer à nos coups de cœur, et dans un style très différent, tu voulais nous parler de ce compositeur que tu aimes tant, Ennio Morricone.
Oui, c'est un autre homme que j'admire beaucoup, pour des raisons très différentes, et je voulais donc te reparler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu l'occasion de revoir, et pour cause, parce qu'il passe en ce moment sur Canal+, et ce jusqu'au 20 juillet, donc chers amis auditeurs, ne tardez pas trop. Ennio, réalisé par Tornatore et consacré à l'immense compositeur Ennio Morricone. Ce documentaire est une merveille. Tout d'abord, il est bouleversant parce que cela nous remémore des pans entiers de l'histoire du cinéma et des chefs-d'œuvre sur lesquels a travaillé Morricone. Des chefs-d'œuvre qui le furent en grande partie parce que Morricone a travaillé dessus, a commencé bien sûr par sa collaboration avec son camarade d'école primaire, Sergio Leone, sur les bijoux que sont Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus, Le bon, la brute et le truand, et la trilogie américaine, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, Il était une fois en Amérique. Des musiques merveilleuses. Sergio Leone considérait Morricone presque comme un co-scénariste, tant la musique était un ingrédient essentiel de ses films, et c'est pourquoi, dans Il était une fois en Amérique, Sergio Leone faisait jouer les scènes avec la musique de Morricone et en fond, qui avait été enregistrée au préalable. de manière à imprégner les acteurs de tout l'esprit dramatique. Mais surtout, ce documentaire est passionnant car on y découvre le génie créatif en pleine action. On comprend comment Morricone est arrivé à trouver ses thèmes de film. Le documentaire ayant été largement produit du vivant de Morricone, ses propres témoignages sont très nombreux, ainsi que ceux de très grands réalisateurs avec lesquels il a travaillé, Clint Eastwood, Tarantino, et puis d'autres musiciens comme Quincy Jones ou Hans Zimmer. Et le parcours de Morricone est très révélateur, et peut-être qu'il peut faire écho à certaines choses qu'on a mentionnées avec Churchill, son côté anti-establishment, car c'était un musicien modèle, alors lui plutôt issu de milieux modestes, fils de trompettiste, et lui-même jouait de la trompette pour nourrir sa famille parfois en substituant son père, puis avec son talent il rentre tout de même au conservatoire à Rome, et devient, parce que c'est l'époque, un compositeur de musique très avant-gardiste, très intellectuel on va dire, dans des milieux très abstraits, très idéologiques, qui considèrent la musique populaire comme un sous-genre, et puis la musique de film comme quelque chose de totalement indigne. Pourtant, Morricone va être toujours en recherche de nouveaux sons, de nouveaux défis musicaux, et va tout d'abord devenir un arrangeur de génie, travaillant à de très grands succès de la variété italienne, comme Abbronzatissima d'Eduardo Vianello ou Sapore di Sale de Gino Paoli, ce sont des tubes en Italie. Il va travailler avec Mina, la chanteuse Mina, dans laquelle, pour notamment sur sa chanson Se Telefonando, dans laquelle il introduit Morricone, vraiment une pop très orchestrale. Donc c'est vraiment un musicien exceptionnel. Et puis il teste beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il passe à la musique de film. Alors, dans le documentaire, bien sûr, je ne vais pas tout détailler, parce qu'il faut vraiment le voir, il est formidable. Mais on voit le mélange de son savoir académique, de ses intuitions, de son côté provocateur. Donc, c'est vraiment un homme formidable. On s'attarde sur quelques films en particulier, comme Le Bron, la brute et le truand, dans lequel c'est l'imitation du cri du coyote qui va servir d'inspiration à Morricone. Mais il y a aussi Le Clan des Siciliens, pour qui Morricone et compose le thème principal, en jouant. Alors là, il s'amuse, hein. Il va faire comme il est un grand admirateur de Bach, il va utiliser les quatre notes qui font le mot Bach, donc B-A-C-H, pour jouer avec. Et c'est comme ça qu'il compose le fameux thème des Clans des Siciliens. Et puis, dans Mission, qui est un film de Roland Joffé, il compose un thème magnifique qui met l'influence religieuse, chrétienne, catholique, et des chants des populations indigènes d'Amérique, ce qui est totalement le thème du film. Et donc, c'est le parcours sans concession sur son art et très droit de cet homme qui se bat toujours contre l'établishment, qu'il s'agisse du monde académique ou même d'Hollywood, qui lui a très longtemps refusé l'Oscar. C'est ce parcours que l'on découvre à travers ce documentaire magnifique. Il faut penser que Ennio Morricone avait eu un Oscar d'honneur seulement en 2007, mais son premier Oscar pour un film, il ne l'obtient qu'en 2016, donc au soir de sa vie. Et donc, ce documentaire constitue l'hommage exceptionnel que Morricone méritait. Et donc, il est diffusé jusqu'au 20 juillet sur Canal+, et je le conseille absolument. Jérémy, parmi les plus de 500 musiques de films ou d'œuvres télévisuelles que Morricone a composées, figure celle de Gino Bartali, l'Intramontabile, biopic italien de l'immense champion cycliste Gino Bartali, double vainqueur du Tour de France et puis homme exceptionnel, on pourrait en reparler. Et toi, c'est justement du Tour de France dont tu veux nous parler aujourd'hui.
Du Tour de France, et je vais évoquer dans un instant Gino Bartali.
Parfait.
Alors, le Tour de France, tu connais ma passion pour le Tour. Je pense qu'un de mes rêves serait un jour, comme Blondin dans la voiture 101, de suivre du début à la fin le Tour de France. J'espère que je le ferai avant la fin de ma vie. Mais cette année, le Tour de France, donc 2023, a une dimension auvergnate extrêmement importante. Et donc, je ne pouvais qu'en parler. Le Tour de France s'arrêtera 4 jours en Auvergne. La première étape partira donc, alors, à côté de l'Auvergne, du Limousin, de Saint-Léonard, de Noblat, qui sont les terres de Raymond Poulidor, pour une arrivée au Puy-de-Dôme le 9 juillet, 35 ans après la dernière arrivée au sommet du volcan endormi. Le lendemain, il y aura une journée de repos à Clermont-Ferrand. Ensuite, une très belle étape qui va se dérouler au cœur de la chaîne des Puys entre Vulcania et Issoire. Et puis, finalement, une étape le 12 juillet qui ira de Clermont-Ferrand à Moulins-sur-Allier. Et Moulins-sur-Allier, c'était la seule préfecture jusqu'à cette année de France métropolitaine qui n'avait jamais accueilli un départ ou une arrivée du Tour de France. Donc, ça sera aussi pour cette ville une grande première. Et puis, moi, dans le village où j'ai grandi, il passera le Tour de France le 12 juillet. Et donc, Condallier s'est revêti de ses plus beaux habits habits, s'est paré de ses plus beaux habits pour accueillir le Tour. Et donc, je voulais revenir sur deux angles très différents pour parler du cyclisme. D'abord, rapidement, de cette série qui a été lancée par Netflix, Tour de France au cœur du peloton, qui est actuellement disponible sur la plateforme. Alors, on est clairement dans le même modèle que Formula One Drive to Survive ou que plus récemment Breakpoint sur le tennis. Et donc l'idée, c'était d'être immergé. Donc ils se sont immergés dans plusieurs équipes au moment du Tour de France 2022. Et toujours cette idée, tu vas créer un narratif très fort sur des rivalités au sein des équipes entre cyclistes, ce qui a d'ailleurs créé quelques polémiques parce que certains cyclistes ont dit que certaines des rivalités étaient très exagérées par Netflix, notamment entre le coureur Wout van Aert, la star belge, et le coureur danois Vingegaard qui a gagné le dernier Tour de France. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant dans la série Netflix, c'est que je pense que ça peut transmettre la passion du cyclisme à des gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Un peu comme la Formule 1 d'ailleurs. Et donc moi j'encourage beaucoup, y compris des gens qui n'ont aucune appétence pour le cyclisme, à regarder parce que ça montre beaucoup de choses. Ça montre d'abord la ferveur autour du Tour de France. Ferveur, je trouve extraordinaire et je trouve qu'il est source de joie dans cette période très sombre pour la France. Quand je vois moi les gens qui sont passionnés sur les routes du Tour, quand on voit tout simplement la beauté de notre pays, je trouve que ça met quand même du baume au cœur. Deuxièmement, ça montre aussi que le cyclisme, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Et c'est un sport d'équipe avec une aristocratie, quelque part, parce qu'il y a des leaders d'équipe, il y a des soldats qui se mettent à leur service, il y a des tactiques d'équipe, etc. Parfois des décisions très dures à prendre. Donc ça montre cela, ça montre en fait toute la stratégie, toute la tactique, et puis combien le cyclisme est un sport de souffrance où les cyclistes prennent tous les risques, y compris physiques, et vont au bout d'eux-mêmes. Et donc, cette série est à cet égard passionnante. Donc, je la conseille vraiment. C'est extrêmement bien fait. Et puis, en parallèle, je voulais revenir sur une rivalité qui avait été saisie de manière magnifique par Dino Buzzati dans un livre sur le Giro 1949. Alors, Dino Buzzati, on le connaît plutôt pour le désert des Tartares ou K. Et c'était quelqu'un, disons-le tout de suite, qui ne connaissait rien au cyclisme. Mais la Corriere della Sera lui avait demandé en 1949 de chroniquer le Giro, donc qui est le Tour d'Italie. Et à l'époque, en fait, il faut savoir que l'histoire du cyclisme est faite de grandes rivalités. En France, évidemment, on se souvient de la rivalité entre Poulidor et Anquetil, entre un Lemond et un Fignon, etc. Il y a eu toujours ces grandes rivalités dans l'histoire du cyclisme. Et à l'époque, en Italie, donc dans l'Italie d'après-guerre, il y avait une rivalité absolument immense entre deux hommes, Gino Bartaldi et Fausto Coppi. Tu ne pouvais pas trouver plus différent que ces deux hommes. Gino Bartaldi, c'était un homme assez petit, toscan, extrêmement pieux, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, avait trouvé refuge au Vatican, était quelqu'un qui était adoré par toute l'Italie chrétienne démocrate, par toute cette Italie très religieuse. D'ailleurs, certains appelaient à le canoniser, tellement il était aimé. À l'inverse, Fausto Coppi, c'était un grand échassier. Il avait des jambes immenses, un petit torse, un visage d'aigle de proie, quelqu'un qui venait, lui, du Piémont. Et alors, le seul point commun que les deux avaient, c'est que c'était des fils de paysans très pauvres. Et le cyclisme était, à l'époque, vu souvent pour ces enfants de paysans très pauvres comme une manière de s'extraire de leurs conditions. Mais en revanche, c'était quelqu'un qui était plutôt... qui avait une relation avec une femme divorcée, ce qui, dans l'Italie de l'époque, était vu comme scandaleux. D'ailleurs, un jour, le pape avait refusé de bénir le peloton parce que Coppi en faisait partie. Bref, c'était deux Italies qui s'opposaient. Et puis, sur le plan politique, c'était l'Italie chrétienne-démocrate contre, finalement, l'Italie de gauche, voire communiste, qui s'associait à Fausto Coppi. Et d'ailleurs, leur rivalité était si importante qu'il y a cette anecdote que je rappelle. En 1948, Alcide de Gasperi, qui est le premier ministre chrétien-démocrate de l'Italie, appelle Bartali au téléphone lors de l'arrivée à Cannes du Tour de France 1948 pour le féliciter. Mais surtout, il lui pose une question. Il lui dit « Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner le Tour de France, finalement, au-delà de cette étape ?» Alors là, Gino Bartali est extrêmement surpris par la question du premier ministre. Et le premier ministre italien lui explique, lui dit « Oui, parce que Togliatti, le numéro un du Parti communiste, vient d'être victime d'un attentat. Et je pense que seule votre victoire à Paris est susceptible d'apaiser les tensions et de nous éviter une guerre civile. » Donc on voit bien que c'était au cœur de cela. Et donc, dans son ouvrage, enfin dans ses chroniques, qui vont être ensuite transformées dans un ouvrage sur le Giro 1949, Buzzati met sa plume au service de cette rivalité. Alors, juste, je ferai quelques citations, parce que, évidemment, il ne rentre pas dans les descriptions de la bataille cycliste, il n'en aurait pas les compétences, donc il prend un petit peu du recul. Et pour parler d'abord du cyclisme, il utilise la métaphore militaire. Il dit, et je cite, il écrit, Buzzati, « Prenez garde, géant de la route, méfiez-vous. C'est à une armée fière et extrêmement tenace que vous devrez livrer bataille dès le premier jour. Et par la suite, après-demain et le jour suivant, et sans cesse, vous la trouverez sur votre chemin. Elle lancera à vos trousses ses régiments qui ont des noms sinistres. Ils s'appellent Kilomètre, Nuage, Tonnerre, Poussière, Montée, Sirocco, Nid de Poule. Puis alors que le peloton s'approche des Alpes, Buzzati écrit « Les juges, c'est-à-dire les montagnes, sont assis énigmatiques ». Et finalement, le Giro 1949, qui va être remporté par Coppi, montre aussi quelque chose de tragique, parce que c'est la fin de Bartali, qui était un petit peu, qui avait déjà gagné le Tour de France avant-guerre, et finalement, le triomphe de Coppi par rapport à Bartali. Et donc, à la fin, Buzzati livre une merveilleuse chronique dans laquelle il compare l'histoire de Bartali au drame d'Hector. Et je cite Buzzati, « Lorsque aujourd'hui, dans l'ascension des terribles pentes de l'Isoard, nous avons vu Bartali se lancer seul à la poursuite à grands coups de pédale, souillé par la boue, les commissures des lèvres abaissées en un rictus exprimant toute la souffrance de son corps et de son âme. Coppi était déjà passé depuis un bon moment. Et désormais, il était en train de gravir les ultimes rampes du col. A ressurgi en nous, 30 ans après, un sentiment que nous n'avons jamais oublié. Il y a 30 ans, veux-je dire, nous avons appris qu'Hector avait été tué par Achille. Une telle comparaison est-elle trop solennelle, trop glorieuse ? Non. À quoi servirait ce qu'il est convenu d'appeler les études classiques si les fragments qui nous restent à l'esprit ne faisaient pas partie intégrante de notre modeste existence ?
Très beau, et Gino Le Pieux a gagné le Tour en 38 et en 48, donc avant-guerre et après-guerre. Ce qui, on peut penser que s'il n'y avait pas eu la guerre, il aurait pu en gagner beaucoup plus. Mais au-delà du très grand cycliste, c'est aussi un homme remarquable, puisque il n'a pas fait que pendant la guerre se réfugier au Vatican. Il a, sous prétexte, sous couverture d'entraînement, il faisait des centaines de kilomètres pour faire passer des messages pour la résistance antifasciste et aussi des cartes d'identité pour protéger des juifs italiens. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il a été reconnu à titre posthume il y a quelques années, une dizaine d'années, comme juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem. Donc vraiment un homme formidable et merci pour ce bel hommage. Et il faudra suivre le Tour de France chez toi. Donc.
Tout à fait. Et juste peut-être pour boucler la boucle avec Churchill. Churchill, lorsqu'il demande à ses avions de bombarder l'Italie, dit « Mais faites bien attention, il vous faudra faire attention de ne pas bombarder le Vatican et le pape, car celui-ci a des amis très influents. »
On revient toujours à Churchill et ses bons mots. Jérémy, belle discussion pour cet épisode spécial. On se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode thématique avant la coupure estivale. À la semaine prochaine, Jérémy.
À la semaine prochaine, Romain.